enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Si contient tout ce que j'ai besoin pour vivre une vie abondante. Ce qu'elle dit que je suis capable d'être, je le suis vraiment. Ce qu'elle dit que j'ai, je le prends par la foi. Je vais écouter ce message et jamais plus je ne serai pareil. Parce que la parole de Dieu est enracinée en moi. Amen. Alléluia. Alors le titre de ce message, c'est « Dieu veut plus de moi ». Sonny ? C'est bon ? Vous savez, dans nos chants, quand on chante dans les louanges, on dit toujours, on a l'habitude de dire « Seigneur, je veux plus de toi, Seigneur. Je veux encore plus de toi, Seigneur. Seigneur, je veux rentrer encore plus dans ta présence. » Je veux plus de ta présence. Aujourd'hui, Dieu nous dit que lui aussi, il nous dit, je veux plus de toi. Dieu veut plus de toi. Wow. Nous disons souvent, je veux mieux te connaître, Seigneur. Et on a raison de le dire. C'est bon de le dire. Mais ce mot connaître, vous savez qu'il a une signification particulière en hébreu ? Le mot connaître. Le mot connaître, il a un sens intime en hébreu. Il est utilisé pour décrire la relation entre un homme et une femme. Regardez, entre Adam et Ève, la Bible dit, dans Genèse 4, verset 1, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Connaître dans le sens de la Bible, ça veut dire une relation intime. C'est même plus que ça, c'est une fusion entre deux êtres. Ainsi, nous-mêmes, nous sommes amenés, nous sommes appelés à cette même fusion avec le Seigneur. C'est pour cela qu'au fond de nous-mêmes, on se dit souvent, je veux demeurer en lui. En fait, parce que nous sommes appelés à faire un avec Christ. Regardez. Prenez dans Jean 15, au verset 4. Et ça, c'est le premier verset. Et le premier mot, c'est « Il aspire à te connaître ». Jean 15, verset 4. Qu'est-ce qu'on lit ? Demeurez en moi comme moi en vous. C'est vraiment intime ce qu'il dit là. Tout comme le sarment ne peut lui-même porter de fruits s'il demeure dans la vigne. Vous non plus, vous ne demeurez pas en moi si vous ne demeurez pas en moi. C'est important que nous soyons, que nous ayons cette relation intime. Nous sommes liés avec Christ. Regardez un petit peu plus loin dans Jean 15 au verset 9, il dit que « Demeurez dans mon amour ». Et c'est ça qu'il cherche. Et c'est ça que nous avons besoin. Et c'est ça que nous recherchons aussi. Dieu veut donc plus de toi. Mais comment lui donner plus si ce n'est avancer par la foi ? C'est important. Une petite note sur la marche de la foi. Peut-être que là-dedans, il y a peut-être des mises au point à faire. Quand on parle de la marche par la foi. Rappelez-vous Pierre. Oui, l'apôtre Pierre. Pierre a marché sur l'eau. Et quand il a marché sur l'eau, il a mis sa foi sur un mot, sur une parole qui a été prononcée par Jésus. Cette parole, c'est « viens ». Il a posé sa foi sur le mot « viens ». Puis il a marché sur l'eau. Puis à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a regardé les flots, puis il a vacillé, et il est en train de tomber. Car les vents étaient forts, la Bible dit. Mais vous savez, c'est pas si grave de tomber dans l'eau. Regardez ce qui s'est passé par la suite. Jésus vient au secours de Pierre. On trouve ça dans Matthieu 14, au verset 29. Il vient au secours de Pierre, mais s'il vient au secours de Pierre, il va venir aussi à notre secours. Donc c'est pas grave de tomber dans l'eau. Jésus est là et il tend la main. Jésus, il est là parce qu'il veut t'enseigner et il veut t'aider. Hein, donc c'est le deuxième mot, il veut t'enseigner et t'aider. Deuxième point. Je dis tantôt que Dieu voulait plus de nous. En fait, comprenez bien que personne avant nous, je parle de nous, l'Église, personne avant nous n'avait été auparavant sous cette dispensation magnifique de la grâce. Vous savez que c'est un énorme privilège, énorme, de profiter de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Mais voilà, en tant que bénéficiaire de cette grâce, nous avons des responsabilités. Et c'est sûr, et même certain, que ces responsabilités-là sont plus élevées que celles qui étaient au moment de la loi. Nous sommes donc appelés à vivre un mode de vie plus excellent. L'alliance que nous avons aujourd'hui nécessite de notre part bien plus que d'obéir à des commandements écrits ou à des ordres écrits comme la loi. Nous, nous avons à vivre ces commandements. Ces commandements sont gravés dans notre cœur. Ils sont plus gravés sur une tablette de pierre. Ces commandements sont gravés dans notre cœur. Alléluia. C'est important de comprendre ça. Jésus n'a-t-il pas dit toujours à ses disciples qu'il voulait les conduire à s'élever spirituellement? Le Seigneur nous a appelés enfants de Dieu. Et Dieu, pour qu'il nous considère comme ses enfants, ben, il veut plus de nous. La semaine dernière, on a eu un message sur la lumière du monde. Jésus était la lumière du monde. Mais aujourd'hui, c'est nous, la lumière du monde. Alléluia. Alors nous devons bien plus mettre en pratique les enseignements de Jésus. En fait, nous devons les assimiler et les vivre. Vous voyez la différence qu'il y a entre les suivre et les assimiler? Les assimiler, ça veut dire qu'on va les prendre, ces commandements, ces deux commandements d'amour, et faire en sorte qu'ils soient partie intégrante de notre être. On va les vivre. On va fusionner avec ça. Et c'est à ce prix-là qu'on va se rapprocher de ce que Jésus attend de nous. On doit donc apprendre à les assimiler. Jésus veut nous conduire à le suivre encore plus loin, beaucoup plus loin dans la parole. La semaine dernière, on a eu une effusion du Saint-Esprit. Si vous étiez là, c'est extraordinaire. J'ai rarement vu ça. Là où le contrôle appartient à l'Esprit. Et on ne fait que gérer les dons que le Seigneur nous donne. Mais vous savez, on en est au début. On a peut-être expérimenté encore même pas 1% de là où le Seigneur veut nous amener. Wow, ça fait trembler quand même. Alléluia. Êtes-vous prêts à ça? Quels sont les domaines où Dieu veut que nous soyons impliqués? Alors, si vous voulez bien, on va en citer quelques-uns. Alors, pour ça, on va faire comme la semaine dernière, comme dimanche dernier, on va se prendre la main, symboliquement, et puis on va tous y aller ensemble. Une église unie. Alors, on se prend la main spirituellement, et on y va. Première chose que le Seigneur cherche, et là c'est le troisième mot, la troisième phrase, le Seigneur cherche pour nous un engagement actif dans le salut. Ça veut dire quoi ça? Un engagement. Le mot c'est engagement. Il cherche un engagement, il cherche ton engagement pour le salut. Mais pas n'importe quel engagement. Un engagement actif. Il est important pour nous de bien comprendre qui nous sommes en Christ. De bien assimiler qui nous sommes en Christ. Et c'est parce que nous comprenons et nous savons et nous acceptons qui nous sommes en Christ que nous ne pouvons pas nous empêcher de proclamer l'évangile de Jésus. Mais pour cela, il faut d'abord le reconnaître comme son Dieu. Oui, pas de problème. C'est facile. De toute façon, on n'a qu'à regarder dehors. On se rend compte. Là, mon fils, hier, a été à Montréal, au planétarium. La discussion qui tournait pour des non-chrétiens, c'était « c'est pas possible ». C'est Dieu qui a fait ça, c'est pas possible. L'univers, c'est trop. Il n'y a pas de problème à croire en un Dieu. Même Satan croit en Dieu. Mais il le craint. Et il en a peur. Il faut aller au-delà. Il faut voir Jésus comme son sauveur personnel. Et le reconnaître comme son sauveur personnel. Et accepter que lui a payé nos péchés. Que lui a payé nos péchés. Ça, c'est correct. Et la troisième chose, c'est de le reconnaître comme le maître. Celui qui donne les ordres. Oui, mais là, c'est peut-être plus difficile. C'est-à-dire qu'il faut être soumis à ce qu'il dit, à sa parole, à ses recommandations, mais aussi aux serviteurs, aux gens que le Seigneur a mis dans le corps de Christ. En charge de son église. Et là, des fois, c'est moins évident. Ah oui, mais lui, c'est un homme comme moi. Oui. Mais c'est pas l'homme qu'il faut regarder, c'est l'onction qu'il y a derrière. Si vous regardez l'homme, oh, vous allez être déçu. Si vous regardez l'action de Dieu derrière cet homme, que Dieu a mis en place, là, vous ne serez pas déçu. C'est important. La deuxième chose que Dieu cherche, qu'on améliore, pour qu'il veut plus de nous, c'est notre disponibilité avec lui. Alors le mot c'est, il veut passer du temps d'intimité avec nous. Dieu a besoin de voir ses enfants comme un père a besoin de voir ses enfants. Et Dieu veut un temps d'intimité avec nous. Il veut ce temps-là avec toi. Et Jésus aussi. Regardez dans Matthieu 26, verset 38, ce qu'il est dit. Mon âme est triste. Jusqu'à la mort. Restez ici, éveillés avec moi. Vous savez, Jésus, il n'a pas changé, hein. sur la terre ou maintenant assis sur le trône, c'est le même. Et il dit quoi ? Veillez avec moi. Il veut être avec nous. C'est son plus cher désir. Donc qu'est-ce qu'il veut de plus, Dieu ? Ben, c'est qu'on lui donne un temps d'intimité avec lui. Il faut rester disponible pour être dans sa présence. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes la bien-aimée. Vous voulez savoir comment Jésus soupire en regardant sa bien-aimée ? Lisez donc le Cantique des Cantiques. Alléluia. Jésus veut encore plus. Il veut nous montrer sa gloire. On voit ça dans Jean 17, au verset 24. Qu'il voit ma gloire. C'est ce qu'il dit, Jésus. Il veut qu'on voit sa gloire. Voilà ce qu'il éprouve, Jésus, pour nous. C'est sûr que Jésus est le futur époux de l'Église. Mais Jésus, il voit la projection, et Jésus, lui, se voit l'époux de l'Église. Il est déjà l'époux. Et lui, il est prêt, et il attend que sa bien-aimée se prépare. C'est une relation d'intimité qu'il veut. Dans 2 Corinthiens 11, au verset 12, Paul dit, on va le prendre, « Car j'ai une passion jalouse pour vous, la passion jalouse de Dieu lui-même, et je vous ai fiancé à un seul homme, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. » Le mot « vierge pure », on le verra tout à l'heure. Mais là, la partie qui m'intéresse, c'est que j'ai une passion jalouse pour vous, dit Paul. La passion jalouse de Dieu lui-même. Voilà, cette relation d'intimité. Vous savez, les époux ont besoin de passer un temps d'intimité entre eux. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais parmi les juifs, au moment des hébreux, lorsque un mariage se faisait, là, si la personne était un soldat, il avait un an de congé sabbatique. Pas un an de congé parental, mais un an pour avoir ce temps de partage, ce temps de communion entre époux. C'est ça que veut le Seigneur. Avec nous. Avec nous tous. Alléluia. C'est bon ça ? Ensuite, le Seigneur, ce qu'il cherche de nous, c'est notre sanctification. Alors ça, c'est, il veut t'amener peu à peu à la sanctification. C'est le mot. Le mot sanctification. Ok ? Remarquons que, c'est important là. Peut-être qu'on va s'arrêter un peu à la sanctification, parce que ne croyez pas que c'est quelque chose de difficile. D'abord, sachez que la sanctification, ce n'est pas une œuvre humaine. Waouh, sauvé. Là, déjà là, je transpire moins. C'est pas une œuvre humaine, la sanctification. Non. La sanctification, c'est un processus par lequel le Saint-Esprit va travailler intimement avec notre nature pécheresse, charnelle, pour éliminer tout ce qui peut nous éloigner de la qualité et de la ressemblance de Jésus. Ah, quand on le voit comme ça, ça paraît déjà mieux. Alors, notre travail là, c'est de laisser travailler le Saint-Esprit. Oui, c'est simple. Pour cela, le Saint-Esprit, il va devoir explorer tout le périmètre. Oui, sauf ça. Non, 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 ça aussi. Non, non, pas ça. Ben oui, ça aussi. Tout le périmètre. Et si vous marchez main dans la main avec le Saint-Esprit, vous savez quoi ? Il va vous conduire vers la stature de Christ. C'est sûr qu'on sait très bien que ça ne va pas prendre 5 minutes. Ça peut prendre quelques années, décennies, on arrête là. On est supposé quand même arriver à conclusion là, bon. Donc on va dire que ça prend du temps, certainement pas 5 minutes. Cependant, cette transformation apporte une existence, c'est ça qui est important de comprendre. Cette transformation, quand vous êtes dans ce processus de transformation, ça va vous apporter une vie abondante en bénédiction. Chaque jour est un jour pour se réjouir, car on avance toujours, toujours plus loin avec le Seigneur. Vous vous rappelez la semaine dernière, quand j'ai parlé, je dis qu'il y avait plusieurs personnes plus ou moins rapprochées du Seigneur. Ceux qui étaient très loin avec le Seigneur pouvaient aider les gens à arriver là où ils sont. Mais si vous êtes trop borderline, ça va être difficile. Parce qu'un coup vous êtes de l'autre côté, un coup vous êtes de ce côté-là. Mais c'est important de voir qu'on va avancer toujours plus loin avec le Seigneur et de ne jamais, jamais, jamais revenir en arrière. C'est sûr que des étapes doivent être franchies. Notre but, ce n'est pas de viser la perfection. Si vous visez la perfection, vous allez être déçu. Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Mais, en attendant qu'il revienne, si vous cheminez avec une droiture de cœur, de sorte que si Jésus revenait maintenant, aujourd'hui, il nous trouve en train d'accomplir son plan et sa volonté pour notre vie, alors là, on aura gagné. Là, on fait ce qu'il faut. C'est sûr qu'on a des souillures, mais avec les années, ces souillures doivent être de plus en plus limitées. On doit se détacher de ce qu'on va appeler les scories. Vous savez, tout ce qui est supplément qui se dégage quand on fait la fonderie du fer, enfin bon, une vieille vie. Ces scories, il faut les éliminer. Et c'est sûr que notre but, c'est de le faire au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, on doit en avoir de moins en moins. Si vous en avez de plus en plus, c'est peut-être parce que au départ, vous en y aviez vraiment beaucoup et que le Saint-Esprit est en train de vous montrer. Mais à force, ça doit se clarifier un peu quand même. Il faut espérer. C'est le but. C'est sûr que souvent, il faut apprendre à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à nos désirs, on va dire, égoïstes. Il faut appeler les choses comme elles sont. Parfois, c'est dur. Mais c'est toujours nécessaire. Aussi souvent, on a besoin de travailler notre pardon. Et je dirais que c'est un travail de tous les jours. Ne vous endormez pas là en disant, moi, j'ai pardonné à tout le monde. Non, non, non. Est-ce tous les soirs? Vous savez, moi, j'ai pris une décision tous les soirs. Mais tous les soirs, je demande pardon au Seigneur. Je ne pourrais pas me coucher si je n'ai pas demandé pardon de tout ce que j'ai fait. Si j'ai vraiment fait du mal à quelqu'un, il faut que ce soit réglé avant que je m'endorme. C'est important d'étudier votre pardon. Est-ce que il y a des choses dans la vie que je n'ai pas pardonnées? Parce que ça va vous bloquer. Aussi, il va falloir apprendre à passer au-dessus des offenses. Oh, les offenses, ça fait mal. Oui, mais celui qui vous a offensé, il est peut-être mal dans sa peau. On doit passer au-dessus des offrandes, des offenses. Vous savez quoi? Moi, quand j'ai des problèmes de cette sorte-là, il y a un verset qui m'aide. C'est 1 Jean 5.3. 1 Jean 5.3. Vous savez ce qu'il dit? Et je me le répète, jusqu'à ce que ça aille mieux. Il dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Et si vous les répétez, vous allez voir que oui, même apprendre à passer au-dessus des offrandes, des, des offenses, c'est possible et c'est pas pénible. Alléluia. Ce qu'on y gagne, c'est vraiment des trésors. Alors faisons le point maintenant. On a dit qu'il fallait un engagement actif pour le salut. On a dit qu'il fallait être disponible pour sa présence. On a dit qu'il fallait chercher la sanctification. Mais il y a un autre point qui est important, nous, à notre niveau, si nous voulons vraiment avancer. C'est de faire attention à la distraction. Alors, les deux derniers mots, là, en bas de la page, c'est « Il veut te protéger de la distraction et de l'égarement. » De la distraction et de l'égarement. C'est sûr qu'il vaut mieux être concentré sur ce que Jésus nous demande. C'est sûr aussi que le monde va nous offrir des distractions. C'est sûr. Ça serait idiot de le nier. Ces distractions-là, elles peuvent nous détourner des affaires du Seigneur. C'est juste une notion de priorité. Rien de plus. Voyez ça comme une notion de priorité. Et donner à la distraction une priorité la plus basse. Si la télévision est une priorité plus grande que le Seigneur pour vous, et si tu n'arrives pas à l'éteindre, appelle un déménageur. Il va faire quelque chose pour vous. Alléluia. Vous savez, il y a un passage dans la Bible. C'est le verset que je vous ai mis, Matthieu 29, verset 21. Il y a un passage dans la Bible qui, pour moi, c'est un verset important pour moi. Voilà, je ne cache pas, je vous livre un peu de moi-même. Là, c'est un verset qui a été très important pour moi, dans ma vie. Ce verset-là, il est triste en soi-même, parce que le jeune homme en question, on va le lire. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens. Mais viens après avoir vendu tout ce que tu as et donné aux pauvres. Viens et suis-moi. C'est beau là. Et ce qui est moins beau, c'est la suite. Après avoir entendu cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Ouais. C'est sûr, ça, c'est une distraction du monde. Et si c'est une distraction, ça va vous égarer. C'est important de relativiser tout ça. Je ne dis pas qu'il faut être pauvre. Ce n'est pas ça du tout. Je dis que votre priorité dans votre vie, ça doit être d'abord Dieu. Et si Dieu est votre priorité numéro un, tout le reste va être en ordre. C'est sûr. Chaque chose doit être à sa place. Chaque chose doit avoir une priorité selon son importance par rapport à ce que Dieu attend dans votre vie, par rapport aux yeux de Dieu. Vous savez, il y a des choses qui brillent, mais ce ne sont pas des lumières. Et si vous les suivez, tôt ou tard, vous allez vous égarer. Faites donc de Dieu votre priorité numéro un. Votre relation avec Dieu doit être la chose la plus importante au monde pour votre vie. Attention, je ne parle pas là du ministère ou de votre place dans l'Église ou de votre travail dans l'Église. Je parle de votre relation avec votre Créateur. Et là, il y a un choix à faire. Oui, oh oui, c'est magnifique, on a un choix à faire. Vous savez, Abraham avait le choix. Il n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait. Mais il a fait un choix. Et ce choix, nous en profitons, nous tous, aujourd'hui. Vous rappelez son fils Isaac, dans Genèse 15, au verset 1 ? Ce qui s'est passé avec Isaac. Est-ce que vous auriez agi pareillement si Dieu vous avait dit, maintenant, ton fils que tu as attendu pendant tant d'années, qu'il est devenu plus important que moi, à tes yeux, ben, sacrifie-le. Comment vous auriez réagi? Ouais, Abraham a fait le choix. Il a tout donné au Seigneur. Et quand il a eu son fils, Dieu lui a demandé plus. Et là, Abraham a répondu, ordonne, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Il y a d'autres choses que le Seigneur aussi nous demande de faire ou de respecter. Le dernier point là, que je voulais souligner, c'était notre engagement, notre implication dans l'exercice d'un ministère, dans l'Église. Et je me réfère toujours à ce verset en acte 13, au verset 2. Vous savez, au moment où ils étaient en train de jeûner, ils louaient le Seigneur, ils faisaient le culte au Seigneur et ils jeûnaient. L'importance du jeûne. Si vous avez pas, si vous n'étiez pas là mercredi dernier, prenez-vous l'enregistrement de mercredi, c'était bon. C'était une bonne chose sur le jeûne. Mais il y a encore tellement à dire. Ils jeûnaient et ils faisaient un culte au Seigneur. Et là, le Seigneur a parlé. Mettez-moi à part deux personnes clés pour l'Évangile. Et ils ont obéi. C'est important que leur engagement dans le ministère ait été aussi fort. Heureusement pour nous. Vous croyez pas? Dieu s'attend à ce que tu t'impliques, c'est le mot qui manque, que tu t'impliques dans l'Église. C'est sûr, dans l'Église, avec un grand E, le corps du Christ. Tu t'impliques là ou là, peu importe, mais que tu sois impliqué dans l'œuvre. Acte 12 au verset 2, c'est ça. Pendant qu'ils célébraient le culte au Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le salut implique que nous nous consacrons totalement au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il nous a rachetés. Et à quel prix il nous a rachetés? Inestimable. N'essayez pas de compter, il n'y a pas assez de zéros. Alléluia. Et nous ne nous appartenons plus. Ce que Dieu nous demande de plus, c'est de nous mettre à la disposition du Seigneur et de son Église, avec un grand E. Et forcément, ça veut dire dans une Église locale. Comment on se met à sa disposition? C'est très simple. Par les dons. Par nos dons. Oui, mais ce n'est pas nos dons, c'est ses dons. Ok. Donc on va dire par nous, les dons et nos capacités propres pour exercer un ministère dans l'Église locale. Là je dis bien locale. Regardez dans Galates 5 au verset 13, vous ne l'avez pas sur votre texte. Dans Galates 5 au verset 13, il est dit que vous soyez esclaves les uns des autres. Eh oui. Serviteurs les uns les autres. Est-ce que vous servez des gens dans l'Église? Est-ce que vous avez le cœur à servir les gens dans l'Église? Alléluia. Je sais qu'il y en a. Quand je vois le nombre de personnes qui sont impliquées dans Alpha, mon cœur est en feu. Quand je vois ça, je suis heureux. Amen. Et l'autre verset important, c'est 1 Pierre 4, verset 10. Si vous y allez et vous regardez, vous verrez que c'est important. Dieu a mis des dons en nous. Et nous devons être les économes de ces dons. Économes, ça veut dire les gestionnaires de ces dons. C'est à nous de les partager dans l'Église. Jésus nous a donné une provision avec ses dons inestimables. Il nous a donné la provision pour que nous, on la prenne et on la cache. Et puis même si c'est possible, on la met sous terre pour que personne ne le sache. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Ah non. Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? On prend les dons et on en fait partager tout le monde. Et le cœur du Christ avance, progresse, grandit, se nourrit. C'est ça. Oui, c'est sûr que les pasteurs sont là pour aider à ce que ça se passe. Mais chacun de nous, nous sommes une source, une ressource pour la nourriture des autres. Hey, c'est important. Le corps se nourrit tout seul. Avec la grâce de Dieu. Avec ce qu'il nous a laissé. Lui et lui, le Saint-Esprit. Qui est où? En moi. Que tout le monde dise en moi. En moi, en nous. Alléluia. Donc nous avons la capacité de le faire. C'est pas une bonne nouvelle? Alléluia. Oui, l'édification commune, c'est une priorité de Jésus lui-même pour développer son Église, son corps. Bien, c'est sûr, selon nos limites et nos capacités, bien évidemment. Mais vous savez quoi? Une chose importante à comprendre et à connaître, c'est que Jésus connaît nos limites, il connaît nos fatigues, il connaît nos fatigues physiques, nos fatigues morales, il connaît nos fatigues spirituelles. Pourquoi? Parce qu'il les a vécues lui-même quand il était sur la terre. Il sait de quoi il parle. Et aujourd'hui, il peut être notre intercesseur parce qu'il les connaît, nos faiblesses. Il les a vécues, tout comme nous. Et c'est par nos faiblesses que nous sommes forts en lui et que lui pourrait être fort en nous. Pour qu'on fasse le plan de notre vie. Alléluia. Alors tout cela nous amène à considérer l'essentiel. Le but, l'apothéose de ce message là, c'est quoi? Je le disais tout à l'heure, c'est dehors. Il y a des gens qui meurent. En attendant son retour, il y a un combat à mener. Il y a un combat à mener. Alors voilà pourquoi Dieu veut plus de nous, parce qu'il y a un combat à mener. Parce que nous ne pouvons pas rester oisifs. Il y a un combat à mener. Et Dieu aujourd'hui, hier et demain, il va vous dire, je veux que tu ailles au combat, mon frère, ma sœur. Prenons assurance sur la fidélité du Seigneur. Mais avant tout, il faut garder le cap. Regardons un petit exemple, ce qui est arrivé dans Juges. Je veux dire, je ne veux pas montrer des choses négatives, parce que Juges, des fois, quand on lit, c'est... Waouh! Il faut une bonne dose de joie avant de commencer Juges. Vous savez, hein? Prenons Juges 4. Juges, chapitre 4. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ben, ce qui se passe, c'est que le peuple de Dieu est arrivé en terre promise. Le peuple de Dieu est arrivé en terre promise. Yes! On est arrivé. Non. On est arrivé, mais c'est pas tout. Il faut combattre. Ah, il faut combattre. Et qu'a fait le peuple de Dieu? Pourquoi il y a eu des juges ensuite? Parce que, plutôt que chasser les habitants, ben, ils ont commencé à partiser. Même plus que ça, ils ont commencé à fraterniser. Et même encore au-delà, ils ont commencé à s'assimiler. Oui, mais c'était avec l'ennemi, tout ça. Et vous savez quel est le résultat? La Bible le dit, hein. Tout le monde peut lire Juges 4. Hein. Merci Seigneur pour la parole. Le résultat, c'est qu'ils sont devenus esclaves. des peuples qui devaient chasser, Cananéens et Philistins. Et pendant 20 ans, ils ont été esclaves des Cananéens. Pendant 20 ans. Vous savez, si quelque chose n'est pas en ordre dans notre relation avec le Seigneur, ben, il faut s'attendre à des conséquences. Comme je le disais la semaine dernière, ce qui est important, c'est comment on va réagir. Péché, le Seigneur, il sait. Mais comment on va réagir quand on fait des bêtises? Il y a une partie à faire. Pendant 20 ans, ils ont cru s'en sortir eux-mêmes. Ils ont voulu s'en sortir eux-mêmes. Et finalement, après 20 ans, ils ont fait la seule chose vraiment importante. Ils ont crié au Seigneur. Et ils se sont repentis. C'est tout ce que voulait le Seigneur. Rien de plus. C'est la puissance de la prière qui les a délivrés. La puissance de la prière. La prière, c'est une étincelle qui met le feu. C'est l'étincelle qui a fait démarrer tous les réveils de l'histoire. La prière. Jésus dit d'ailleurs, ma maison sera une maison de prière. Vous savez, on trouve ça dans Luc 19, au verset 46. Ma maison sera une maison de prière. Alléluia, c'est important la prière. Mais il faut faire face à l'ennemi. Et quand l'Église prie, l'ennemi est terrorisé. C'est comme si l'ennemi était en train de faire des petites choses de son côté. Puis d'un coup là, il y a la lumière qui vient et qui le regarde. Ah, il est éclairé. Il est en train de faire quelque chose de mal là. C'est normal, c'est le mal. Puis paf, il y a la lumière qui arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Il est terrorisé. L'ennemi est terrorisé quand la lumière arrive sur lui. Alléluia, il fuit. C'est pour cela que nous devons voir plus grand que notre église locale. Alléluia. Les églises, aujourd'hui, restent en vase clos, en cercle clos. Et en dehors de l'église, on ne se parle pas. On parle qu'aux gens autour de nous. Des gens qui pensent comme nous, qui parlent comme nous. Le Seigneur, il vous dit, je veux plus. Je veux que tu sortes et que tu ouvres la bouche. Waouh, c'est dur ça. Non, pas dur. Les commandements sont faciles. Alors sortons. Regardons autour de nous. Ayons un regard dans le monde. Le monde meurt. Ouvrez les yeux. Le monde meurt. Et on fait quoi? Ah, c'est sûr qu'on peut continuer à chanter des cantiques, c'est pas mauvais. Mais il y a un temps où il faut sortir et agir. C'est sûr qu'il y a un temps pour louer dans l'église, bien au chaud. Mais il y a aussi un temps pour aller au combat en chantant des cantiques de victoire qui vont terroriser l'ennemi. Les chants de terreur pour l'ennemi. Les chants de victoire du peuple de Dieu sont des chants de terreur pour l'ennemi. Et plus on chante haut, et plus il a peur. Alors on doit regarder les gens autour de nous. Et puis peut-être aussi développer des langages d'amour entre eux et nous, parce qu'on n'est pas si différents que ça. On était au milieu d'eux, et on a reçu la lumière. Alléluia. Les jeunes sont maltraités, continuent à être maltraités. Les jeunes se piquent, ils se droguent, ils meurent dans l'indifférence, et souvent seuls. Pourquoi? Est-ce que vous voulez voir Dieu agir? Est-ce que vous êtes dans l'état où vous priez et rien ne se passe? Alors, il faut y aller, et vous verrez Dieu agir. Car quand Dieu dit « va, va de l'avant », il faut être prêt. Oui, mais je suis pas prêt. Pas la peine d'attendre que tu sois prêt. Si Dieu dit, va, Va au combat, tu y vas. S'efface. Dieu veut que tu ailles combattre dans le camp de l'ennemi. Et il fuira loin de toi. Il fuira loin de toi. Il fuira loin de toi. Même. N'a-t-il pas promis, Jésus, qu'il sera toujours parmi nous? De quoi avons-nous peur? On répond. De rien. Je pense qu'il n'y a plus un seul démon dans les environs, là. Là, à mon avis, là, on est tranquille, là, pour un bon moment. Merci, Seigneur. Allez. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui vous manque? Vous voulez avoir le feu? Vous voulez avoir le feu? Alors, on va parler du feu. Si on a le temps, un petit peu. Oui, un petit peu de temps encore. Jésus est venu pour l'homme perdu. Et aujourd'hui, le disciple est invité à utiliser son feu intérieur pour éclairer le monde. Chaque chrétien est disposé, est exposé à un risque. Quel risque? De voir son feu diminuer avec le temps, voire même disparaître. Le travail du disciple, alors, c'est de veiller sur sa flamme pour la maintenir et la protéger. C'est sûr que venir à l'église, c'est comme se remplir d'huile. On remplit son huile pour tenir encore une semaine. C'est important de venir à l'église pour maintenir sa flamme jusqu'au moment de l'appel du maître. Vous savez, le salut est une initiative de Dieu, de lui et de lui seul. C'est lui qui peut nous donner cette flamme. Et c'est lui-même qui va nous embraser. Alléluia. Comment? Avec l'action conjuguée du Saint-Esprit, de la parole. Oui, mais il y a une partie humaine là-dedans. C'est sûr que Dieu est souverain dans le feu. Mais il appartient à l'homme d'accepter cette intervention divine. Et dans ce sens, l'homme a une part. Ainsi, par sa foi, son amour, sa consécration, son engagement, l'homme peut devenir une vraie gâchette de la gloire de Dieu. Paf! Un coup de gloire! Paf! Un coup de gloire! Alléluia! On est une gâchette de la gloire de Dieu. Alléluia! Entre les mains du Créateur, le disciple, et soit une bombe incendiaire, soit un pétard mouillé. Pardon, Seigneur, je ne voulais pas faire ça, là. c'est trop dur, là. Pardonnez-moi. Là. Non, vous oubliez ça. Tu enlèves ça de l'enregistrement. Non, pétard mouillé, c'est vraiment pas bon. Non, pas pétard mouillé. C'est sûr que l'association des parts divines et de l'homme, ça va provoquer l'embrasement. Et le travail du disciple sera ensuite d'entretenir ce feu, toujours prêt à s'embraser, comme la première fois. Nous ne devons pas être un feu de cheminée où, quand on met une bûche froide, une bûche verte, ça prend du temps. On doit être un bazooka. Je suis un peu extrémiste, hein. Mais c'est bon, allez, c'est bon, c'est bon. Alors parfois, on va mettre du bois vert dans le feu, c'est dur. Et parfois, ce bois vert, il va avoir du mal à prendre. Et c'est là qu'on a besoin du souffle du Saint-Esprit, qui va souffler sur la braise, et qui va enflammer le bois vert. Ça, c'est une belle image. Merci, Seigneur. Notre avenir est tracé. Ah, c'est la fin, là. C'est correct? Oui. Notre avenir est tracé. Nous devons garder les yeux ouverts vers ceux qui sont supposés nous rejoindre. Oh, je vois qu'il y a encore des places libres, là. Non, non, pas possible. On ne doit pas accepter ça. Ceux qui sont supposés nous rejoindre. Il nous appartient de leur apporter la bonne nouvelle. Avez-vous besoin du feu? Branchez-vous sur le Seigneur. Faites-le plein du Saint-Esprit. Dimanche dernier, c'était bon, moi j'ai fait le plein, pour vous dire. Et partez. Où ça? Où ça? Jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Vous savez, la nouvelle vague de l'Esprit qui arrive. Alléluia. Cette vague qui arrive à nos pieds là. C'est une vague missionnaire. Alors tenez-vous prêts. Parce que Dieu va vous utiliser. Alors allons au combat. Et puis, donnons-lui plus, toujours plus. Alléluia. Merci Seigneur. Que ces paroles, Seigneur, soient enracinées, Seigneur. Merci Seigneur. Merci que ta parole agisse, Seigneur, dans chacune de ces personnes, Seigneur, qui vont écouter ce message, que ce soit ici ou par Internet, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, de les bénir et d'agir dans leur cœur. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Alléluia.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.